vendredi 5 janvier 2018 et voici au quotidien des quotidiens votre revue de presse avec vous pour les 90 prochaines minutes. François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Hélène qui sera néanmoins de retour dès lundi. Et puisque nous sommes gens de tradition, notre première question en ce qui concerne ce jour, c'est « Mais le 5 janvier, ça représente quoi dans l'histoire de l'humanité? » Mathieu Tessier pour y répondre.
Eh bien, mon cher François, un 5 janvier 1757, à Versailles, Robert François Damien frappe Louis XV d'un coup de canif et pour cela... ne sera pas remercié, mais il sera écartelé.
Ce qui était quand même un châtiment humain à l'époque, puisque la tradition voulait aussi qu'on leur arrache la peau, qu'on les roue, c'est-à-dire qu'on leur casse les os. Bref, il y a eu un traitement de faveur.
Quand même. En 1795, le Parlement de Québec édicte le premier règlement visant les marchands de vin et de brandy. Nous avons toujours un 5 janvier en 1897, les funérailles d'Édouard Charles Fabre, le premier archevêque de Montréal. En 1898, un incendie endommage gravement l'Université d'Ottawa. 5 janvier 1919, le soulèvement spartakiste débute à Berlin, mené par Rosa Luxembourg. C'est donc la fondation du Parti national socialiste des travailleurs allemands. En 1925, Nelly Taylor Ross devient gouverneur du Wyoming. C'est donc la première femme à occuper ses fonctions aux États-Unis. Nous avons toujours un 5 janvier 1943. La Cour suprême du Canada déclare valide la loi des mesures de guerre adoptée en 1914. Au Théâtre de Babylone de Paris, en 1953, la pièce « En attendant Godot » de Samuel Beckett est créée par Pierre Latour. Au Cambodge, en 1976, le régime Khmer Rouge baptise les pays Kampuchea démocratique. En 1993, en route vers le Canada, le pétrolier Braer se brise sur des récifs aux îles Shetland et déverse 84 000 tonnes de brut dans la mer du Nord. L'administration Clinton, quant à elle, en 1999, annonce un allègement par étapes de l'embargo contre Cuba. En 2001, la brasserie Labatt met fin à sa commandite de 2 millions de dollars par an en faveur des expos de Montréal. Et en 2010, le gouvernement canadien annonce l'installation dans les grands aéroports du pays de 44 scanners corporels au coût de 250 000 dollars chacun. Et pour ce qui est des naissances, nous avons l'inventeur et industriel américain King Kemp Gillett, qui est né en 1855.
Pardon. L'homme du rasoir.
C'est exact. Et l'écrivain italien Umberto Eco est né un 5 janvier 1932. Et pour ce qui est des décès, nous avons le Belge André Franquin, le père de Gaston Lagaffe, qui nous a quittés en 1997. La romancière canadienne Margaret Lawrence, qui nous a quittés en 1987. Miss Tinguette, l'artiste de music hall, nous quittait en 1956. Et Catherine de Médicis, la reine Catherine de Médicis, nous quittait en 1589. Ça, c'était toujours un 5 janvier.
Et on commence sans plus attendre cette revue de presse. Une journée un peu tranquille, en fait. Ils ne sont pas encore rentrés au travail, ceux qui peuplent l'actualité usuellement. Évidemment, la grande vedette du jour, c'est la tempête, on s'en doute bien. Et, bon, parce qu'il n'accepte pas de ne pas être à la rubrique de la journée, Donald Trump fait encore des siennes. Tout ça dans l'heure et demie qui va suivre. On commence immédiatement avec la presse et en vous parlant d'une fraude bancaire aux États-Unis qui va coûter cher à 4 étudiants québécois. C'est un texte de Vincent Larouche. Un jugement du juge américain Geoffrey W. Crawford a mis un point final au feuilleton judiciaire du groupe peu avant les fêtes en imposant une peine au dernier des co-accusés. Les agents du département de la sécurité intérieure des États-Unis avaient arrêté le quatuor d'étudiants à la fin d'octobre 2016, une perquisition dans un petit entrepôt loué par leur leader à Burlington, au Vermont, avait permis de découvrir 33 500 $ américains en billets de 20 $, un lecteur encodeur et des cartes magnétiques ainsi que près de 400 cartes cadeaux de restaurants comme Subway et Dunkin' Donuts avec des chiffres inscrits dessus au marqueur. Selon la preuve déposée en cour et consultée par la presse, les enquêteurs ont déterminé que ces cartes avaient été utilisées pour y encoder les données de cartes de crédit ou de débit clonées par le groupe au Québec. Les quatre étudiants avaient attiré l'attention lors de leur passage à la frontière. Les douaniers avaient notamment constaté qu'ils voyageaient avec des listes de numéros de cartes, de l'argent comptant, ainsi qu'avec la facture du fameux lecteur-encodeur de cartes magnétiques. Pendant ce temps, les banques de la région de Burlington rapportaient des centaines de fraudes ou tentatives de fraude à l'aide de cartes de crédit ou de débit canadiennes clonées. Un guichet a été ciblé à lui seul pour des retraits de 54 000 $. Les enquêteurs américains ont compris ce qui se passait. Les étudiants utilisaient une vulnérabilité du système bancaire américain. Entre 2007 et 2015, le Canada s'est converti aux cartes à puce qui préviennent les fraudes en générant à chaque transaction un code unique non réutilisable. Cette technologie plus coûteuse commence à peine à être utilisée aux États-Unis où il a été difficile de mobiliser l'industrie en sa faveur. Les guichets automatiques y fournissent encore des avances de fonds en lisant la bande magnétique à l'arrière d'une carte, très facile à copier. Il est tentant pour des criminels canadiens de copier des cartes sur support magnétique et d'aller les utiliser aux États-Unis. Après leur arrestation, Niccolo Manfredi, un étudiant de l'UQAM de 21 ans, Brando Lowe, un étudiant de l'Université de Montréal de 24 ans, Safwan Ben Salma, au HEC de Montréal, 21 ans, avaient passé deux bonnes semaines en prison au sud de la frontière. Pour recouvrer leur liberté dans l'attente de leur procès, ils avaient dû compter sur leur famille qui avait versé d'importantes cautions de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le quatrième comparse, Mathieu Baaklini, un étudiant de l'Université de Montréal de 21 ans, avait eu beaucoup plus de mal. Les soupçons qui pesaient sur lui étaient plus lourds. Il avait transféré des fonds à un autre fraudeur bien connu de Montréal. Il était aussi soupçonné d'avoir fraudé par téléphone une dame âgée de Houston qui n'avait plus toute sa tête et qui lui avait transféré 40 000 $ vers son compte bancaire québécois sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Même s'il n'avait pas été accusé faute de preuves d'une intention criminelle, les autorités américaines retenaient cette histoire contre lui selon les documents déposés à la cour. Sa caution a été fixée à 250 000 $ américains. Sa mère, secrétaire dans un hôpital, et son père, chauffeur de taxi, ont utilisé toutes leurs économies et contracté une marge de crédit, en plus de solliciter tous les membres de la famille. Sans succès, ils n'ont pu amasser que 98 000 $. Il a fallu attendre février 2017 pour que le juge accepte d'abaisser le montant de la caution et de le libérer dans l'attente du procès. Le Canada, on le sait, en fait, si vous ne le savez pas, vous vivez loin de toute forme d'actualité, se prépare à légaliser l'usage du cannabis. Pendant ce temps, aux États-Unis, on fait le mouvement inverse, du moins le gouvernement fédéral, parce que les États américains, eux autres, ont largement légalisé l'usage du cannabis, mais le gouvernement fédéral le tolérait jusqu'à maintenant en vertu d'une directive adoptée par Barack Obama. Or, on sait ce qui arrive en ces temps troublés aux directives adoptées par Barack Obama sous administration Trump. Eh bien voilà, ça va aider le Canada, semble-t-il, ce que rapporte Tristan Péloquin. Légalisation du cannabis, Washington pourrait favoriser le Canada. Qualifiée de chaotique, la nouvelle ligne directrice du gouvernement Trump pourrait favoriser l'industrie canadienne du pot, croient des experts. Explication en quatre temps. Même si 29 États américains ont jusqu'à maintenant officiellement légalisé la consommation de cannabis à des fins médicales ou récréatives, la loi fédérale américaine continue de l'interdire sous peine de poursuites criminelles. Depuis 2013, un mémorandum publié par le Bureau du procureur général des États-Unis assurait cependant aux producteurs et aux consommateurs une certaine impunité, pourvu qu'ils s'abstiennent de rendre la marijuana accessible à des mineurs ou d'en détourner les profits à la faveur de groupes criminels. Hier, le procureur général Jeff Sessions, nommé par Donald Trump, a abrogé cette politique de l'ère Obama, affirmant dans un nouveau mémorandum que la marijuana était une drogue dangereuse et que la cultiver, la consommer ou la distribuer était un crime sérieux. Il reviendra donc au procureur de district, élu par le peuple, de décider s'il poursuit ou non les personnes surprises à produire ou à consommer de la marijuana. L'intention de la Maison-Blanche avec cette nouvelle politique reste imprécise, mais des spécialistes croient qu'elle vise à ralentir la croissance rapide de l'industrie du cannabis sur le sol américain. Cette décision va surtout toucher la capacité des producteurs de financer leurs activités. Ce sera beaucoup plus difficile pour eux de convaincre les gens d'investir dans l'industrie du cannabis, estime Kevin Sabat, président du groupe de pression Smart Approaches to Marijuana, opposé à la légalisation. En raison de l'interdiction fédérale qui a cours aux États-Unis, aucune banque n'a le droit de prêter de l'argent aux entreprises du secteur et certaines institutions financières hésitent même à leur fournir des services bancaires de base. La nouvelle politique de Jeff Sessions crée beaucoup de confusion et d'incertitude, surtout pour les entreprises et les gens d'affaires qui ne savent pas sur quel pied danser. Je ne pense pas que ça va stopper l'industrie, mais cela risque de la ralentir considérablement, indique Peter Murphy, avocat américain spécialisé dans les questions réglementaires liées au cannabis au cabinet Eckert Siemens. Alors que les investissements dans l'industrie du cannabis restent difficiles aux États-Unis, c'est tout le contraire qui se produit au Canada. Une quinzaine de producteurs autorisés par Santé Canada sont désormais légalement inscrits en bourse à Toronto, où ils ont récolté depuis 2 ans plus de 15 milliards de dollars en capitalisation boursière. La situation chaotique que vient d'imposer Jeff Sessions aux États-Unis est assurément favorable à l'industrie canadienne du cannabis, croit Pete O'Neill, consultant à la tête d'Empire Cannabis Brands, qui développe des marques de commerce pour des investisseurs privés. Grâce à la réglementation adoptée par Justin Trudeau, les entreprises canadiennes sont en train de devenir des acteurs majeurs à l'échelle planétaire. À terme, dans 10 ou 15 ans, le Canada sera un acteur incontournable dans le marché du cannabis, estime M. O'Neill. Ça fait des années qu'on en parle, mais ça y est, c'est pour octobre et c'est le titre de l'article de Giuseppe Valiente dans la presse « Les foyers seront davantage réglementés à Montréal ». 20 ans après la crise du verglas, les foyers au bois et les poêles à combustion lente seront strictement réglementés à compter du mois d'octobre à Montréal. Les Montréalais ne pourront plus utiliser de combustible solide, à moins que l'appareil n'émette pas plus que 2,5 g par heure de particules fines dans l'atmosphère, certification à l'appui. Les autorités municipales ont adopté des mesures graduelles depuis une dizaine d'années lorsque la direction de la santé publique a commencé à sonner l'alarme sur les épisodes de plus en plus nombreux de smog dans la métropole. Santé Canada rappelle que le smog, particulièrement les particules fines, nuit aux fonctions respiratoires, cardiaques et sanguines. André Bellil, président du Conseil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, soutient d'ailleurs que la piètre qualité de l'air à Montréal certains jours de l'année est en partie un héritage de la crise du verglas de 1998. En procédant à un programme de recyclage des poêles à combustion lente, l'association a constaté qu'après 1998, de nombreux Montréalais avaient littéralement pris d'assaut les magasins de la province pour acheter ce type d'appareil afin de se préparer à une nouvelle crise. En 2009, on comptait ainsi environ 50 000 appareils de chauffage au bois à Montréal. Les nouvelles normes d'émissions de particules fines à Montréal seront plus sévères que partout au Québec, déplore Chantal Demers, directrice générale de l'Association des professionnels du chauffage. Elle aurait aimé que Montréal aille moins vite. Le gouvernement du Québec a adopté en 2009 une loi qui interdit la fabrication, la vente et la distribution d'appareils de chauffage au bois qui n'obtiennent pas la certification de l'Association canadienne de normalisation, oui, la CSA, ou de l'Agence américaine de la protection de l'environnement, l'EPA. La même année, en 2009, la Ville de Montréal a adopté un règlement interdisant l'installation de tout appareil qui ne répond pas aux normes de l'EPA. Mais le conseil municipal est allé plus loin en 2015. À compter d'octobre prochain, la Ville de Montréal interdira aussi aux propriétaires d'appareils certifiés de les utiliser lors des épisodes de grand smog. Les propriétaires de foyers non certifiés pourront les conserver, mais ils ne pourront plus les utiliser après le mois d'octobre, sauf si le courant venait à manquer pendant plus de 3 heures. Les fours à bois des restaurants et des boulangeries, comme les célèbres fours à bagels du Milan, seront aussi exemptés du règlement municipal.
Come my wild horse, come pick me up. Let's go outside and let's pretend it's New York. Drown the small town troubles in Hudson River puddles. Put those shiny dancing boots on. We'll meet the local heroes down at the bar. The gifted and the phonies, rodeo and ponies. And the truth is, I was wrong when I said I was born. Any street that I'm walking on with you, anywhere with you, could be New York. And the truth is, you pointed your finger at the magic and wonder they hold. Now we're out and we're digging for gold. 'Cause the truth is, I was wrong when I said I was born. Any street that I'm walking on with you, anywhere with you, could be New York. And the truth is, it's all really happening here. And the truth is, I'm sleeping, dreaming away till I forgot that wherever we are is where it's happening. Come on, wild horse, and pick me up. Come on, wild horse, come pick me up. Come
le groupe Boy qui nous chantait la chanson New York.
On aborde maintenant le devoir et on fait le point sur la tempête, puisque la presse canadienne y a publié un texte intitulé « Ce que vous devez savoir sur la tempête ». La tempête hivernale annoncée déferle sur le Québec, principalement dans l'Est. Vendredi matin, plusieurs routes étaient fermées et des dizaines de vols étaient annulés en raison de forts vents et de la poudrerie élevée. Les plus récentes prévisions d'Environnement Canada indiquent que le mercure oscillera toute la journée entre -17 et -20 degrés Celsius à Montréal et à Québec, avec une température ressentie de moins 30. Et ça, quand vous recevez de la poudrerie dans le visage, c'est pas agréable. La région de la métropole devrait recevoir de 2 à 4 cm de neige et des rafales de 60 km/h. Des précipitations interminantes de neige et de la poudrerie sont également attendues dans la vieille capitale. Les régions les plus touchées, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, devraient recevoir entre 20 et 50 cm ainsi que des rafales de 70 à 90 km/h qui soulèveront de la poudrerie. Le sud du Québec devrait aussi recevoir 5 à 10 cm, tandis que le nord-ouest sera complètement épargné. Les routes de l'est du Québec demeurent les plus affectées par la tempête. Plusieurs tronçons de l'autoroute 20 et de la route 132 restaient fermés à la circulation vendredi matin en raison des conditions météorologiques difficiles. La Société de transport de Montréal a indiqué que le service aux usagers à mobilité réduite pourrait être compliqué par ces conditions. Sur la rive sud de Montréal, le réseau de transport de Longueuil a fait état de retards à prévoir. Selon le ministère des Transports du Québec, les traversiers de Rivière-du-Loup, de Matane, de Tadoussac et de Montmagny étaient notamment immobilisés. Jeudi, Orléans Express avait annoncé que plusieurs retards, annulations et interruptions de parcours étaient à prévoir pour les trajets d'autobus reliant Rimouski et Rivière-du-Loup à Québec et Montréal. En matinée, Hydro-Québec ne rapportait pas de panne majeure. Les voyageurs en vacances devront s'armer de patience. À l'aéroport Montréal-Trudeau, une trentaine de vols ont été annulés vendredi et une dizaine de vols accusaient déjà un retard aux alentours de 8 heures. Des dizaines de milliers de personnes se sont réveillées dans le noir vendredi matin après qu'une puissante tempête eut balayé le Canada atlantique, inondant des routes côtières, ballottant des bateaux et renversant des arbres, oui, avec des vents dignes d'un ouragan. Selon la Nova Scotia Power, 125 000 foyers néo-écossais étaient toujours privés d'électricité vendredi dans une zone allant d'un bout à l'autre de la province en raison de vents soufflant jusqu'à 140 km/h qui ont secoué la région dans la nuit de jeudi à vendredi. Au Nouveau-Brunswick, plus de 130 pannes touchaient 11 000 clients à travers la province qui a également reçu beaucoup de neige. L'île du Prince-Édouard était elle aussi en grande partie plongée dans l'obscurité. Les vents violents ont provoqué des ondes de tempête en Nouvelle-Écosse, la mer inondant des routes depuis le passage Eastern près de Halifax jusqu'au comté de Lunenburg, en laissant des roches et des débris sur son passage. Le Devoir rapporte également, et c'est le titre de l'article, que l'opération Charme du gouvernement Trudeau se poursuit aux États-Unis. Deux ministres du gouvernement Trudeau passeront les prochains jours aux États-Unis pour convaincre les élus américains de protéger la relation commerciale entre le Canada et leur pays. C'est un effort sans relâche, a reconnu le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale en entrevue alors qu'il était sur la route au Kentucky. Nous avons une importante relation à préserver et nous avons un message important à transmettre qu'il faut répéter constamment pour nous assurer qu'il est entendu. Ces visites se déroulent au Kentucky et au Tennessee, deux États voisins, un peu plus de deux semaines avant la sixième ronde de négociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui s'amorcera le 23 janvier à Montréal. Le ministre de l'Agriculture, Lawrence McAuley, passera la fin de semaine au Tennessee pour le congrès annuel de l'American Farm Bureau Federation, un organisme national qui représente les agriculteurs américains. 5000 délégués du monde agricole y sont attendus. Son message se rendra peut-être aux oreilles du président américain Donald Trump, puisque celui-ci doit y prononcer un discours. M. Goodale participe quant à lui à la 23e journée de la Chambre de commerce du Kentucky jeudi. Cet événement annuel rassemble un grand nombre de représentants du monde des affaires et de la classe politique. Où donc s'arrêteront les conséquences néfastes du réchauffement planétaire? Voici que une des choses les plus importantes qui soit pour moi est menacée, le café. Comment sauver le goût du café? Texte publié dans Le Devoir aussi. Le réchauffement climatique n'épargne pas les caféiers. Comment adapter ces arbustes fragiles au changement tout en préservant les arômes de la boisson? La création de nouvelles variétés constitue une partie de la réponse. Le petit noir qui donne des couleurs à nos matins ne sera probablement plus le même dans quelques dizaines d'années. Des pronostics alarmants se multiplient. Les changements climatiques menacent la précieuse graine. Industriels et scientifiques se mobilisent pour adapter le caféier à ces nouvelles conditions de vie, avec une mission cruciale, sauver les saveurs fines des arabicas. Selon le Climate Institute australien, la surface des terres adaptées à la caféiculture pourrait être réduite de moitié d'ici à 2050 et les caféiers sauvages risqueraient de disparaître vers 2080. Une étude des jardins botaniques royaux de Kew montre qu'en Éthiopie, pays d'origine du café et cinquième producteur mondial d'arabica, près de 60 % des zones de production pourraient devenir incultivables d'ici à la fin du siècle. Si les caféiers sauvages disparaissent, une grande diversité génétique sera perdue, notamment pour le développement de nouvelles variétés. Le caféier est un arbuste fragile et peu de dérèglements suffisent pour que la qualité et la quantité de la récolte en pâtissent. Le café arabica, originaire des hauts plateaux éthiopiens, se sent bien entre 800 et 2100 mètres d'altitude à des températures entre 18 et 22 degrés, avec une certaine alternance de périodes sèches et humides. Le robusta, plus résistant, c'est celui qu'on utilise pour faire le café instantané, est cultivé dans des zones tropicales jusqu'à 800 mètres d'altitude. Il supporte mieux que l'arabica les températures élevées, mais est plus sensible à la sécheresse. Les températures au-dessus de 24 degrés et la sécheresse n'affectent pas seulement la qualité du café, elles facilitent aussi la propagation de certaines maladies vers les régions qui en étaient épargnées, note William Solano du Centre de recherche sur l'agriculture tropicale. Voilà, alors vous le voyez, le réchauffement climatique qui n'épargne vraiment rien, ne respecte rien, c'est dramatique. Restez avec nous, on aborde dans quelques instants le Journal de Montréal. Thank you.
fazendo a ladeira na praia, na esteira, com barulho de motor. Em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lata vejo a flor. Chão na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor. De qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
La chanson Baijo, chantée par une amie de la station, Bia.
Oui, dans les pages du Journal de Montréal, Axel Marchand-Lamotte fait écho au bilan annuel de la Sûreté du Québec en matière de sécurité routière. Pour la première fois, l'utilisation du cellulaire et les distractions au volant ont causé plus de morts que l'alcool sur les routes patrouillées par la Sûreté du Québec l'an dernier. Dans son bilan routier annuel qui sera dévoilé aujourd'hui, la SQ dénombre 24 collisions mortelles liées aux distractions, la principale étant le cellulaire au volant. Il s'agit d'une hausse de 50% comparativement à 2016. C'est préoccupant, mentionne Patrick Després, inspecteur à la surveillance du territoire pour la SQ. La technologie est très accessible et c'est toujours tentant de vouloir utiliser son téléphone, mais les gens doivent rester concentrés sur la route. Avec plus de 10 000 constats d'infraction remis l'an dernier pour l'utilisation d'un téléphone en conduisant et les sanctions plus sévères à venir, la SQ espère que les automobilistes se responsabilisent davantage. Utiliser son téléphone intelligent comme GPS, c'est une chose. Consulter ses textos en est une autre, rappelle l'inspecteur. Le policier souligne également que de lire un livre ou de se maquiller au volant constitue d'autres distractions que les patrouilleurs constatent régulièrement. Inversement, la conduite en état d'ébriété est en diminution et a été responsable de 19 accidents mortels l'an dernier comparativement à 24 en 2016. Les policiers appréhendent toutefois la légalisation du cannabis prévue cet été. Quand on regarde ce qui s'est produit dans d'autres États, on pense qu'il y aura un effet sur le bilan routier. On prend ça au sérieux, explique M. Després, en ajoutant que de nouveaux agents examinateurs seront formés. Si le nombre de victimes de la route de 16 à 24 ans a été en diminution au cours des quatre dernières années, 2017 marque une hausse de 46% pour cette tranche d'âge. Sur les 57 décès constatés par la SQ, 15 étaient des passagers, une situation qui inquiète. L'inexpérience, jumelée à la vitesse et à la consommation d'alcool, rend les jeunes conducteurs davantage à risque, souligne Patrick Després. On doit amener les occupants à s'affirmer, à dire que c'est assez. Les policiers miseront notamment sur plus de sensibilisation pour y parvenir. Les changements envisagés par le gouvernement au Code de la sécurité routière pour les conducteurs de moins de 19 ans, qui inclurait la limitation du nombre de passagers et l'interdiction de la conduite nocturne, sont aussi bienvenus. Toutes ces mesures peuvent sauver des vies et on est pour, soutient M. Després. On vous parlait hier du traversier entre Lévis et Québec qui était resté coincé pendant 4h30 par la glace sur le fleuve. Eh bien, il fallait s'y attendre, il y a des réactions. Pierre-Paul Biron, dans le Journal de Montréal, nous rapporte, c'est le titre de son article, que Stephen Blainey somme le gouvernement d'investir pour de nouveaux brise-glaces. Le conservateur Stephen Blainey appelle le gouvernement Trudeau à agir en ajoutant des brise-glaces et des remorqueurs de qualité sur le Saint-Laurent afin d'éviter des incidents comme celui de mercredi alors qu'un traversier s'est retrouvé prisonnier des glaces. Pour le député de Lévis, Bellechasse, les aides-chemins, les quatre heures qu'a passé l'Alphonse Desjardins dans les glaces du fleuve démontrent parfaitement la gravité de la situation. Ce n'est pas la première fois qu'un traversier reste pris dans la glace, mais ce qui est exceptionnel cette fois-ci, c'est que la garde côtière n'a pas été en mesure de répondre à l'appel. La Munson était en réparation au Méchain et le Terry Fox, qui n'est pas un navire idéal, était aussi brisé, explique Stephen Blaney, exaspéré par le manque d'efficacité et le vieillissement de la flotte canadienne. L'élu demande donc au gouvernement libéral d'agir dans ce dossier avant que d'autres incidents malheureux se produisent. Que ce soit en commandant de nouveaux navires ou en louant des bateaux en attendant de boucler définitivement le dossier, M. Blaney presse Justin Trudeau d'agir. La flotte de brise-glace a plus de 35 ans. Ma recommandation pour Justin Trudeau pour 2018, c'est de prendre une bonne résolution et d'arrêter de penser aux Caraïbes et à ses vacances à la Gacan. Il faudrait qu'il s'occupe du Nord canadien, du fleuve, de notre économie et de notre sécurité. Ça passe par de nouveaux brise-glaces pour le Canada et des navires pour la Marine royale, a lancé le député en point de presse aux abords du fleuve. Pour appuyer ses propos, Blaney cite plusieurs rapports gouvernementaux et d'experts qui appellent à des investissements massifs dans la flotte de la garde côtière et de la Marine canadienne. Dans un rapport sur l'état des transports au pays, l'ancien ministre David Emerson affirmait notamment que la garde côtière n'était pas outillée pour faire face aux défis associés au trafic maritime. Récemment touché par d'importantes compressions, le chantier naval Davie se dit prêt à donner un coup de main rapidement au gouvernement. En fait, l'entreprise a proposé au gouvernement le projet Resolute il y a 2 ans qui permettrait à la garde côtière de mettre la main sur un brise-glace de classe polaire et 3 brise-glaces moyens, mais aucune réponse n'est venue. Le porte-parole de la Davie a précisé jeudi que l'offre est toujours sur la table. Ne manque qu'un coup de fil du fédéral. L'incident d'hier est une illustration parfaite de la pertinence du chantier Davie dans ce qu'on peut appeler la débâcle de la garde côtière. On n'attend qu'un signal parce que de notre côté, ces brise-glaces-là peuvent être de retour au pays et prêts à être convertis d'ici 3 semaines. Davie est prêt, lance Frédéric Boisvert, porte-parole du chantier. Les 4 navires de Resolute étaient initialement destinés au programme Shell Alaska, un projet de forage dans l'Arctique. Un ralentissement du marché du pétrole et un moratoire du gouvernement américain permettent aujourd'hui la disponibilité des brise-glaces. José Boileau, elle, fait un point politique qui est assez déprimant, vous allez le voir. L'année de la pensée magique. En 2018, l'appétit évident des Québécois pour un changement de gouvernement débouchera-t-il sur la défaite des libéraux? Comme disent les Anglais, that is the question. Dans les faits, tous les indices y sont. Plus de 70 % des francophones sont insatisfaits du gouvernement Couillard. Après 3 ans d'austérité qui lui ont permis d'engranger de gros surplus, même sa distribution cynique de baisses d'impôts ne trompe personne. Et le changement? Depuis des mois, la CAQ de François Legault mène dans les sondages. Quant au Parti québécois, ses appuis ont fondu. Sur son flanc gauche, Québec solidaire est aussi un adversaire dont l'objectif est de croître aux dépens du PQ. Voilà pour le portrait, du moins pour le moment. Les campagnes électorales étant devenues des boîtes à surprises, gare aux prédictions trop hâtives pour le scrutin du 1er octobre prochain. La seule certitude est que le thème classique du « changement » est dans l'air. La CAQ en sort favorisée. Or, paradoxalement, elle n'a rien de nouveau en soi. Après tout, la CAQ est issue des cendres de la DQ et menée par un chef ex-ministre du PQ et fut cofondée par un ex-recruteur libéral. Comme quoi le changement tient parfois de la pensée magique. Hormis la question identitaire, le PLQ et la CAQ sont aussi des vases communicants sur le plan des idées. Dans un tel contexte que la quête du changement bénéficie autant à la CAQ, témoigne surtout de l'échec du PQ à s'imposer comme la vraie solution de rechange aux libéraux. C'est pourquoi le chef péquiste Jean-François Lisée jouera le va-tout de son parti. Pour ce faire, Il mise sur des propositions anti-austérité capables, dit-il, de répondre aux besoins du vrai monde. Pendant que la CAQ se cherche un nouveau programme, celui du PQ est en effet le plus apte à renforcer des services publics malmenés. Mais cela sera-t-il suffisant? Après son annus horribilis en 2017, M. Lisée jure que le PQ remontera la pente et rappelle que d'autres chefs, dont Justin Trudeau, sont revenus de loin pour prendre le pouvoir. Au PQ, le problème est toutefois d'une autre nature. Comment se distinguer de la CAQ quand il s'est lui-même dépourvu de son ADN politique en mettant de côté son option souverainiste? Résultat, au lieu de souder ce qu'il reste de sa base traditionnelle, le PQ l'a encouragé à butiner ailleurs. Si le PLQ perdait le pouvoir après 15 ans, personne ne tomberait des nues. Au PQ, après un aussi long séjour à l'opposition, sauf pour 18 mois, les conséquences seraient autrement plus graves. Elles le seraient parce qu'au-delà du destin d'un parti, c'est l'option souverainiste elle-même qui en sortirait encore plus minée. C'est pourquoi le chef du Parti québécois sait qu'il n'aura pas droit à l'erreur, un fardeau lourd à porter. Ses troupes devront espérer que sa prédiction d'une CAQ friable en 2018 se réalise le soir du 1er octobre.
Then they're gonna push back. Singing out, I work harder than hard. I broke my back for the start. I stomp my boots and who's this? And you're listening now. You want the moon or a plate? I'm sorry, baby. I'm taking you back to school and no fooling. Who's this? And you're listening. It gonna take to bend an ear or two. Let's take the money, let's take the rules, let's take the alibi and let's take the truth. 'Cause it's the same old story. As a matter of fact, that if you keep on pushing people, then they're gonna push back.
Eh bien, c'était Wallace Bird qui nous demandait « Who's listening now, mon cher François? »
C'est une bonne question. N'hésitez pas à vous signaler si vous voulez y répondre.
Je sais qu'il y a Julia qui nous écoute, de la République tchèque.
Oh, de loin donc.
Oui.
On passe au volet peut-être un peu plus léger de cette émission, en commençant par un prix encore fictif, mais très, très, très convoité. Les humoristes américains convoitent les Fake News Awards. Donald Trump a tweeté en début de semaine qu'il allait décerner des prix aux médias les plus malhonnêtes et corrompus de l'année. Une remise de prix virtuelle prévue lundi prochain qu'il a baptisée les Fake News Awards. Cela a frappé l'imaginaire d'animateurs d'émissions de fin de soirée qui ont décidé de promouvoir leur candidature en parodiant les fameuses publicités « For Your Consideration » que publient les grands studios à la veille des galas. Stephen Colbert a lancé le bal mercredi en affirmant à son émission qu'il avait acheté un panneau d'affichage sur Times Square, car rien ne te donne autant de crédibilité que d'être traité de menteur par Donald Trump. Trevor Noah et Samantha Bee lui ont emboîté le pas en concevant de fausses publicités dans lesquelles ils reprennent des critiques formulées par des médias de droite à leur égard. Reste à savoir si Donald Trump remettra bel et bien ses prix entre une insulte à son ex-conseiller Steve Bannon et des menaces au régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. On le savait, ça en prend beaucoup pour intimider une Saguenéenne. Eh bien, il y a un voleur qui l'a pris à ses dépens. Son sang-froid fait fuir un voleur, c'est un texte de Pierre-Alexandre Maltais. Une propriétaire de dépanneur de 86 ans de Saguenay a fait preuve d'un grand sang-froid devant un voleur d'une vingtaine d'années qui insistait pour avoir le contenu de sa caisse enregistreuse en début de soirée mercredi. L'homme au visage masqué a été si surpris par l'aplomb de la femme qu'il a préféré fuir les lieux sans s'emparer de quoi que ce soit et surtout sans s'en prendre à la courageuse propriétaire du dépanneur Gagnon situé sur la rue Jacques-Cartier dans l'arrondissement de Chicoutimi. Selon la sécurité publique de Saguenay, le voleur a menacé avec un couteau la propriétaire, Lucienne Tremblay, afin qu'elle lui remette le contenu du tiroir-caisse. Cette dernière a refusé et a avisé le suspect qu'elle alertait immédiatement la police, ce qui a suffi pour que le truand prenne la poudre d'escampette. La dame, qui possède le commerce depuis pas moins de 43 ans, n'en était pas à sa première expérience avec un cambrioleur armé. C'est le sixième voleur armé d'un couteau depuis 1974. Le dernier, ça remonte à 2 ans. Il était venu dans le portique avec un couteau en criant « Hold up !» mais il n'était pas masqué. Il a eu peur et il est parti. Mercredi, c'est la même chose qui s'est produite, raconte Madame Tremblay. Floride, il y a une tempête hivernale qui frappe la côte est américaine, difficile de le rater d'ailleurs. Et ça entraîne une étrange précipitation en Floride. Vous allez voir, c'est ce que nous rapporte le Journal de Montréal. Au moment où plus de 40 cm de neige sont attendus en Gaspésie, la méga tempête hivernale qui balaie présentement la côte est de l'Amérique du Nord a eu des conséquences pour le moins inattendues en Floride. L'État du sud des États-Unis est aux prises avec une vague de froid intense. Le National Weather Service émettant des avertissements de gel pour l'ensemble du territoire. Ces dures conditions météorologiques ont amené des précipitations d'iguanes. Considérées comme une véritable nuisance en Floride, les iguanes verts pullulent dans le Sunshine State. C'est peut-être la raison pour laquelle autant de Floridiens ont eu l'impression de tomber sur plusieurs iguanes verts morts ces derniers jours. Or, les reptiles ne sont fort probablement pas morts, mais en état de paralysie causée par le froid. Les iguanes sont en effet des animaux à sang-froid et les températures polaires les ont fait tomber dans un état de catatonie. Par choc de voiture, piscine, cour arrière, depuis les branches d'arbres où ils ont gelé, les iguanes sont tombés raides comme des barres dans toutes sortes de lieux. Une Floridienne a même décidé d'en sauver un en le réchauffant dans une serviette de plage. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce risque car les iguanes peuvent mordre lorsqu'ils se réchauffent et reviennent à la vie. Si vous êtes en Floride et que vous en voyez, vous n'avez qu'à les mettre au soleil. Dans tous les cas, plusieurs Floridiens auront une drôle d'histoire à raconter à leurs assurances. C'est un grand jour pour moi puisque j'ai enfin trouvé une excuse scientifique à un de mes pires travers. Hélène Lorrain, du Journal de Montréal, nous le rapporte, l'allergie à l'exercice existe. Si certains se trouvent mille excuses bidons pour ne pas faire d'exercice, je fais un choc anaphylactique si je m'entraîne, et pas mal dans le top des raisons tout à fait valides pour rester sur le divan. Qu'on en ait vécu une ou pas, une réaction anaphylactique est quelque chose de marquant. Il s'agit d'une réaction allergique grave. Les doigts picotent, la nausée s'installe, la respiration devient difficile, la peau enfle, les battements cardiaques augmentent et bien d'autres symptômes. Bref, on ne le souhaite à personne. Donc, imaginez ce que cette réaction vous fait lorsque ça survient pendant votre jogging matinal. Selon Popular Science, l'anaphylaxie induite par l'exercice, l'AIE, affecterait 50 personnes sur 100 000. Entre 5 et 15 % des réactions anaphylactiques rapportées seraient des épisodes d'AIE. Pour certaines personnes, c'est l'exercice combiné à un autre facteur, des médicaments, un aliment en particulier ou le cycle menstruel, qui provoque l'anaphylaxie. Et chez d'autres, c'est seulement l'exercice même qui est en cause. Il peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Le pire, c'est que les experts ne savent pas trop pourquoi et comment des épisodes d'AIE surviennent. Il y a bien quelques hypothèses qui circulent. Les changements physiologiques qui ont lieu durant un effort physique sont à l'origine de ces hypothèses. Une augmentation de la circulation sanguine pourrait faire voyager les cellules immunitaires plus loin dans le corps. Il y a aussi la possibilité que des réactions entre des protéines intestinales et des aliments soient modifiées durant l'exercice, causant une allergie. Ou peut-être y a-t-il davantage d'allergies qui se promènent dans le corps puisque l'absorption des aliments dans les intestins est augmentée lors de l'exercice physique. Mais il est difficile de recréer ces conditions en laboratoire avec des souris ou même avec des humains. Donc la recherche n'avance pas vite. Je ne prendrai pas de chance. Est-ce que la Nouvelle-Écosse est en passe de devenir une île? La question mérite de le poser, vous allez le voir, et Joël-Denis Bellavance s'y est intéressé dans la presse. Le lien qui unit le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse est menacé. Les digues qui protègent la portion du territoire qui lie la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, un territoire connu sous le nom d'isthme de Chignectou, n'ont pas été érigés pour résister à une augmentation du niveau de la mer attendue en raison du réchauffement de la planète et de la fonte des glaces. À deux endroits, souligne M. Casey, la ligne du chemin de fer du CN est tout ce qui empêche l'eau de la baie de Fundy d'inonder une portion de ce territoire où se trouve également l'autoroute transcanadienne, le lien routier le plus important entre la Nouvelle-Écosse et le reste du pays, un oléoduc, des lignes de transmission d'électricité et le réseau téléphonique. Pis encore, sa province s'enfonce tranquillement à raison de 15 cm à chaque siècle et les marées de la baie de Fundy sont reconnues comme les plus hautes du monde. Déjà, on prévoit d'ici 2 ans, soit en 2020, que le niveau de l'eau aura augmenté de 32 mm par rapport à 1980, selon les calculs du ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse. Ce n'est plus une question de savoir si cela va arriver, c'est une question de savoir quand cela va arriver, affirme Bill Casey, qui représente la circonscription de Cumberland-Colchester, qui englobe ce territoire, à la Chambre des communes depuis de nombreuses années. Si nous avons une combinaison d'une tempête et des plus hautes marées, ce chemin de fer va briser. Ce n'est pas sécuritaire présentement. Ce chemin de fer n'a jamais été construit pour agir comme digue, ajoute-t-il. L'inondation du lien qui unit sa province au Nouveau-Brunswick aurait des conséquences catastrophiques. Selon une étude du ministère fédéral des Ressources naturelles publiée en 2016, la rupture de ces liens ferroviaires et routiers entraînerait des pertes économiques évaluées à 50 millions de dollars par jour. C'est que la ligne ferroviaire du CN permet d'acheminer des milliers de conteneurs du port d'Halifax jusqu'à Chicago, région névralgique pour le transport de marchandises aux États-Unis. Et une journée de moins que de n'importe quel autre, en une journée de moins que de n'importe quel autre port maritime. Le port d'Halifax pourrait ne jamais s'en remettre. Il y a 400 000 conteneurs qui sont acheminés par cette voie ferrée chaque année. C'est donc un enjeu de la plus haute importance et il n'y a pas de marge d'erreur dans ce dossier, soutient le député libéral, visiblement inquiet de ce qui attend sa province si rien n'est fait. Ah, ce qui peut le plus assimiler une communauté d'êtres humains à un troupeau, c'est la mode. Voici donc, d'après le Journal de Montréal, plus particulièrement d'après Nicolas Beaumont, les 7 tendances que tous les gars vont adopter en 2018. Vous êtes prêts, messieurs? Prenez des notes si vous voulez rester in. Première tendance, la combinaison. En 2018, on sort la chienne de mécanicien du garage et on la revisite en l'agençant à une chemise chic et des espadrilles blanches. Deuxième tendance, la chemise à motif de dragon. Vous étiez fan de métal gothique ou de la série Dragon Ball dans votre jeunesse? Vous serez heureux d'apprendre que la chemise de dragon fait son grand retour. Troisième, les lunettes futuristes. Quatrième, les chemises de bowling. Cinquième, les logos vintage. Sixième, le retour du chapeau bucket. Et septième, je vous le donne en mille, c'est le grand retour de la chemise hawaïenne. Restez en ligne, on revient tout de suite après avec les nouvelles internationales.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. Can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams, though sunbeams fly. I leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Thank you.
C'était évidemment Pink Martini qui nous chantait leur version de Dream Little Dream.
Nouvelles internationales, et on commence immédiatement en Espagne où l'agence France-Presse nous apprend, c'est le titre, qu'en Catalogne, la justice maintient en prison l'ex-vice-président indépendantiste. La Cour suprême espagnole a décidé de maintenir en prison l'ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras, incarcéré pour rébellion présumée et qui vient d'être réélu député régional. Les trois magistrats composant la chambre d'appel de la Cour, saisis contre la décision de placement en détention prise par le juge en charge de l'affaire, ont décidé à l'unanimité de confirmer son ordonnance, a-t-on appris auprès d'un porte-parole de la Cour. Pour les magistrats, il y a bien dans le dossier des indices de commission des délits de rébellion, sédition et malversation de fonds de la part de M. Junqueras, incarcéré depuis 2 mois. En outre, la possibilité de répéter de tels délits ne peut être écartée car aucune donnée ne permet de déduire que le plaignant a l'intention d'abandonner la voie qu'il a suivie jusqu'à maintenant. La Cour se défend de tout procès politique, soulignant que le fait d'être indépendantiste est légitime puisque la Constitution admet la défense de n'importe quelle position politique. Mais cela doit se faire sans commettre de délit, argumentent les magistrats. La décision de la Cour a en tout cas bien des conséquences politiques. Depuis les élections du 21 décembre, les indépendantistes jouissent de la majorité absolue en siège au nouveau Parlement catalan, 70 sur 135, mais 8 de ses députés ne peuvent pas siéger car ils sont soit en fuite en Belgique, soit en prison pour 3 d'entre eux, dont M. Junqueras. Au moins 6 de ces 8 élus doivent donc trouver une solution pour permettre au bloc indépendantiste de conserver le seuil de 68 députés qui lui garantit la majorité. S'ils ne peuvent sortir de prison ou restent en exil, ils pourraient céder leur siège au candidat suivant sur la liste aux élections régionales. Sérieux refroidissement dans les relations entre les États-Unis et le Pakistan. Dans le Devoir, on peut lire que les États-Unis suspendent leur aide sécuritaire au Pakistan. Les États-Unis ont annoncé jeudi la suspension de leur assistance sécuritaire aux forces pakistanaises, auxquelles ils ont réclamé une action décisive contre les factions talibanes établies dans ce pays théoriquement allié de l'Amérique dans sa lutte contre le terrorisme. La porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert, n'a pas précisé le montant de l'aide ainsi gelée, mais a indiqué que ces sommes s'ajoutent aux 255 millions de dollars d'aide militaire déjà suspendue. « Nous confirmons que nous suspendons l'assistance sécuritaire au Pakistan à ce stade », a affirmé Mme Nauert dans son communiqué. Le département d'État a gelé les paiements prévus dans le cadre du fonds de soutien de la coalition destiné à rembourser au Pakistan ses dépenses liées aux opérations antiterroristes. L'armée américaine est autorisée à dépenser jusqu'à 900 millions de dollars en 2017 pour ce fonds et 700 millions en 2018. Jusqu'à ce que le gouvernement pakistanais prenne une action décisive contre les talibans afghans et le réseau Haqqani, que nous considérons et nous considérons que ces derniers déstabilisent la région et visent le personnel américain au Pakistan, les États-Unis vont suspendre ce type d'assistance sécuritaire, a ajouté la représentante du département d'État. Cette décision intervient quelques jours après les menaces du président Donald Trump qui avait évoqué dans des termes très durs la possibilité de couper les financements en la matière, provoquant la colère d'Islamabad. Ça n'arrive pas souvent, mais il semblerait que ce soit sur le point de se produire. Les deux Corées se préparent à des discussions, ce que rapporte Park Chang-kyung dans les pages de la presse. Cette annonce est intervenue quelques heures après que Washington et Séoul ont convenu de reporter leurs manœuvres militaires initialement prévues pendant les Jeux olympiques, des exercices qui, chaque année, contribuent à aggraver la situation sur la péninsule. La Corée du Nord nous a faxé ce matin un message indiquant qu'elle acceptait la proposition de discussion le 9 janvier faite par le Sud a déclaré un responsable du ministère sud-coréen de l'unification responsable des relations avec le Nord. La rencontre aura lieu à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée 1950-1953 et portera notamment sur les Jeux olympiques de Pyeongchang du 9 au 25 février en Corée du Sud et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes, selon le porte-parole du ministère de l'Unification, Baek Tae-yoon. Cette reprise de dialogue intervient après 2 années de dégradation du climat sur la péninsule au cours desquelles la Corée du Nord a mené 3 nouveaux essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Elle affirme aujourd'hui avoir atteint son objectif militaire, à savoir être en mesure de menacer du feu nucléaire l'ensemble du territoire continental américain. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l'a réaffirmé lundi lors de son adresse à la Nation du Nouvel An, en avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le bouton atomique. Mais il a aussi profité de ce discours pour fait rarissime, tendre la main en direction du Sud et évoquer une participation d'athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques. Et Séoul a répondu en proposant la tenue le 9 janvier de discussions de haut niveau à Panmunjom. Kaboul est de nouveau en deuil puisque, c'est ce que le Devoir nous dit, un nouvel attentat suicide a frappé. L'année 2018 démarre par un nouveau bain de sang en Afghanistan après qu'un kamikaze ait déclenché une bombe jeudi soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 25 blessés. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque 4 jours seulement après un attentat lors de funérailles qui avait fait 18 morts dans la province orientale de Nangarhar, frontalière avec le Pakistan, lors du dernier jour de l'année 2017. Un assaillant kamikaze s'est fait exploser près d'un groupe de policiers qui tentait d'assurer la sécurité d'une manifestation, a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. Nous pouvons confirmer que pour le moment, 11 corps ont été transportés dans les hôpitaux, de même que 25 blessés, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Mashro, à l'AFP. Le bilan pourrait évoluer, les ambulances continuent de travailler, a-t-il ajouté. Une source des services de sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat a de son côté avancé un bilan de 20 morts et 20 blessés qui n'a pas pu être confirmé. La meilleure publicité que vous puissiez avoir si vous pensez publier un livre et le lancer, eh bien, ce sera qu'on essaie de l'interdire. Et plus la personne qui essaie d'interdire le livre est importante, plus vous allez en vendre. Ce que Donald Trump est sur le point d'apprendre à ses dépens. Trump échoue à bloquer un livre sur le chaos de sa présidence. C'est un texte de Jérôme Cartillier paru dans la presse. L'avocat du président américain Charles J. Harder a tenté jeudi de faire interdire la publication du livre dressant le sombre tableau d'une Maison-Blanche dysfonctionnelle sur fond d'intrigues autour d'un Donald Trump raillé par ses propres collaborateurs pour son incompétence et son incapacité à diriger. Cette riposte judiciaire a été lancée au lendemain de la très vive réaction de M. Trump, qui a accusé son ex-conseiller Steve Bannon, qui avait mis en cause son fils, d'avoir perdu la raison. Dans une démarche avant tout symbolique, il a adressé un courrier à son auteur Michael Wolff et à Steve Rubin, président de la maison d'édition Henry Holt & Co., leur demandant de cesser immédiatement sa distribution, évoquant entre autres la diffamation. Mais la réponse de l'éditeur, probablement ravi de ce puissant coup de projecteur, n'a pas tardé. Il a avancé la sortie du livre de 4 jours. Initialement prévue le 9 janvier, elle aura finalement lieu aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez l'acheter et le lire demain. Merci, Monsieur le Président, a lancé Michael Wolff dans un tweet. L'éditorialiste multicarte, Hollywood Reporter, Vanity Fair, New York Magazine, âgé de 64 ans, avait expliqué avoir gravité pendant 18 mois autour de la galaxie Trump, de la campagne présidentielle à la Maison-Blanche, et interrogé plus de 200 personnes, du président à ses proches collaborateurs. J'ai autorisé zéro accès à la Maison-Blanche à l'auteur de ce livre dingue. Je ne lui ai jamais parlé pour un livre. Plein de mensonges, déformations et sources qui n'existent pas, a tweeté tard jeudi le président faisant référence au livre. Dans cet ouvrage, dont plusieurs rédactions, dont l'AFP, ont obtenu une copie, Steve Bannon dénonce, entre autres, l'attitude de Donald Trump Jr., ce qui a provoqué la colère du locataire de la Maison-Blanche. Jugeant qu'il a commis une trahison en rencontrant une avocate russe durant la campagne, il donne de facto du poids à l'enquête en cours du procureur spécial Robert Mueller sur les liens supposés entre Moscou et l'équipe Trump qui empoisonne la présidence de ce dernier. Fidèle à son style provocateur, Steve Bannon a assuré, après la publication d'une série d'extraits au contenu explosif, qu'il soutenait toujours l'ancien magnat de l'immobilier. « Le président des États-Unis est un grand homme », a-t-il affirmé mercredi soir, quelques heures après le communiqué cinglant dans lequel Donald Trump l'accusait d'avoir perdu la raison. « Je le soutiens sans relâche », a ajouté sur SiriusXM Radio le patron du très droitier site d'information Breitbart News. « Il m'a qualifié de grand homme hier soir. Il a visiblement changé de ton très rapidement », a ironisé le président américain, visage fermé. Depuis son départ de la Maison-Blanche l'été dernier, Steve Bannon s'est auto-désigné « sauveur du Trumpisme » face à ce qu'il juge être un dévoiement par les républicains du Sérail et les élites de Washington. Parallèlement, l'exécutif a continué à dénoncer avec véhémence les mensonges ridicules d'un ouvrage truffé de ragots de tabloïds. Le livre raconte en particulier combien le candidat républicain et son équipe rapprochée ont été surpris par la victoire, tant ils étaient convaincus qu'elle était hors de portée. « Risible », a répondu sa porte-parole. Le livre de Michael Wolff, « Fire and Fury, Inside the Trump White House »,« Le feu et la colère dans la Maison-Blanche de Trump », relate aussi une première année au pouvoir de Donald Trump marquée par une forme de chaos permanent. Il décrit un président fréquemment reclus dans sa chambre dès 18h30 avec un cheeseburger, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévision, multipliant les appels à un petit groupe d'amis sur lesquels il déverse un flot de récriminations, allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté des membres de son équipe. Volonté d'envoyer un signal fort à ceux qui, au sein de l'équipe Trump, seraient tentés de raconter aux journalistes les coulisses de la présidence? Le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé jeudi que toute personne travaillant à la Maison-Blanche ne pourrait désormais plus utiliser son téléphone portable personnel dans la West Wing, centre névralgique de l'exécutif américain. Sarah Sanders a mis en avant la sécurité et la protection des systèmes technologiques de la Maison-Blanche pour justifier cette décision, assurant qu'elle était à l'étude depuis plus de 6 mois. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump n'a de cesse de dénoncer les fuites au sein de ses équipes. Dans un communiqué vengeur diffusé mercredi, il déplorait notamment que Steve Bannon ait passé son temps à la Maison-Blanche à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu'il ne l'était. Un peu de culture, la question est posée. Petite coquille du côté de CBC que nous raconte André Duchesne dans la presse. Lorsqu'Adam Cohen, fils de l'auteur-compositeur-interprète qui s'est éteint le 7 novembre 2016, a dit quelques mots en français, on pouvait lire ce sous-titre au bénéfice des malentendants qui avaient activé cette fonctionnalité. Adam speaks in foreign language. C'est-à-dire que Adam vous parle en langue étrangère. L'affaire a été débattue sur Twitter. Le consultant conférencier et podcasteur Bruno Guglielminetti, a entre autres rappelé que la qualité du sous-titrage était régie par le CRTC. Dans un courriel envoyé à la presse, la CBC indique avoir fait un suivi auprès de Premium Sound and Picture, fournisseur des sous-titres générés par un programme automatisé. Dans Le Soleil à Québec, on apprenait une nouvelle qui est quand même assez inquiétante puisqu'il semble bien que les retraités soient maintenant de plus en plus nombreux à faire faillite. C'est un texte de Jean-Michel Genois-Gagnon. Alors que la population est vieillissante, la vulnérabilité financière des personnes âgées commence à se faire ressentir. Aujourd'hui, près d'un dossier d'insolvabilité sur 8 est pour une personne de 65 ans et plus. C'est énorme, s'inquiète le syndic Jean Fortin et associés. Seulement entre 2015 et 2016, selon des données de Statistique Canada, le nombre de dossiers d'insolvabilité, faillite et propositions pour les personnes dans cette tranche d'âge a bondi de 10 %. Rien de rassurant, vous direz. Et ça va continuer d'augmenter, prévient le propriétaire du syndic, Pierre Fortin, se réjouissant toutefois de constater que les finances des personnes de moins de 30 ans semblent en meilleure santé. Les données pour l'ensemble de 2017 n'étant pas encore disponibles. À titre de comparaison, le nombre de personnes de 65 ans et plus éprouvant des difficultés financières est aujourd'hui similaire aux données pour les travailleurs de 45 à 49 ans. Ces derniers ont représenté 11,8 % du nombre des dossiers d'insolvabilité traités au Québec en 2016. Ce sont souvent des gens qui sont à la retraite avec comme revenu leur fonds de pension ou la régie des rentes. Ils ne peuvent pas dire « je vais changer d'emploi pour gagner plus d'argent, pour régler mes problèmes financiers », avance le patron de l'entreprise. Ces gens ne ralentissent pas leur train de vie et ils arrivent à la retraite avec des dettes de consommation. Pour une personne de 65 ans et plus, les cartes de crédit représentent un poids plus important dans l'endettement car c'est plus difficile d'avoir des prêts ou des marges de crédit, poursuit-il. D'ailleurs, M. Fortin dresse un parallèle entre la quantité de dossiers d'insolvabilité et le nombre de saisies de propriétés dans la capitale nationale. Selon les données fournies par le portail Nominis, l'année 2017 a égalé le record de la dernière décennie, établi en 2016, pour le nombre de saisies de propriétés. Au total, 180 propriétaires de la région, Lévis, Québec, Portneuf et la Côte-de-Beaupré, ont dû délaisser leur résidence par voie d'un jugement de délaissement ou d'un délaissement volontaire. Cela représente une hausse de 27 % comparativement à la QV 2015. Lorsqu'on regarde les taux d'insolvabilité, 40 % de nos dossiers proviennent de gens qui n'ont pas vécu de changement dans leur situation financière. Aucune perte d'emploi ou de séparation. C'est seulement du surendettement, relate au Soleil M. Fortin. Ce qu'on remarque dans ce 40 %, c'est que ce sont des gens avec une très bonne stabilité financière. Ils ont parfois tendance à se croire un petit peu à l'abri des problèmes. Cela les entraîne parfois au-delà de leurs capacités, poursuit-il. Toujours dans les pages du Soleil, il y a actuellement deux tentatives pour introduire un recours collectif contre Apple au Québec. Deux cabinets d'avocats du Québec ont déposé en Cour supérieure le 29 décembre dernier une demande de recours collectif contre la compagnie Apple, soutenant que des conditions de garantie des produits du géant américain violent la loi sur la protection du consommateur du Québec. Les avocats prétendent que la période de garantie d'un an offerte aux consommateurs québécois pour les piles n'est pas d'une durée raisonnable compte tenu du prix payé et de l'utilisation prévue. À leur avis, la garantie prolongée Apple Care n'est pas plus avantageuse que la garantie légale en vertu de la loi et son prix est disproportionné au point de causer la lésion objective de tous les acheteurs d'Apple Care. La demande de recours a été déposée au nom des consommateurs du Québec inscrits à l'action collective qui ont acheté un produit Apple, incluant un iPhone, un Apple Watch, un iPad, un iPod ou un MacBook. Elle comprend aussi ceux qui ont acheté Apple Care ou Apple Care Plus pour un produit Apple et qui n'ont pas été informés de la garantie légale. La demande de recours collectif réclame des dommages-intérêts compensatoires d'un montant déterminé ainsi que des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 300 $ par personne. Une audition pourra avoir lieu au cours des prochains mois. Si vous êtes un résident de la région Ottawa-Gatineau, eh bien ça y est, le grand événement de l'hiver vient de se produire, ouverture partielle de la patinoire du canal Rideau. Charles-Antoine Gagnon en parle dans les pages du droit. Ça y est, les adeptes du patinage pourront enfin s'élancer sur la glace du canal Rideau à compter de vendredi. Un tronçon de 5 km ouvrira à compter de 8 heures le 5 janvier entre l'aire de repos Bronson jusqu'au pont Pretoria, incluant toute la zone du lac d'Or, a annoncé jeudi la commission de la Capitale-Nationale. Cette ouverture marque le début de la 48e saison de la patinoire du canal. La longueur totale de la patinoire est de 7,8 km. La commission de la Capitale-Nationale n'a pas précisé jeudi quand elle sera accessible dans son entier. Chaque année, la patinoire enregistre en moyenne près de 2 millions de visites et 20 000 visites par jour d'ouverture. À Granby, comme dans plusieurs municipalités du Québec, il existe ce qu'on appelle des quartiers blancs, c'est-à-dire des quartiers où on n'épand pas de sel de déglaçage sur la chaussée. Alors, on s'interroge toujours sur de nouvelles solutions à mettre en place. Il y en a peut-être une qui s'en vient dans ce qu'on appelait jadis la princesse des cantons de l'Est. Des copeaux de bois dans les quartiers blancs. Un texte de Michel Laliberté publié dans La Voix de l'Est. La ville de Green Bay continue de rechercher de nouvelles façons d'améliorer l'entretien de ses rues l'hiver, notamment dans ses quartiers blancs. Les prochains mois, elle testera sur des trottoirs l'efficacité de copeaux de bois imbibés de chlorure de magnésium. La division des travaux publics épandra ces copeaux de bois sur deux petits tronçons de trottoirs dans le secteur du lac Boivin. On veut comprendre comment ça réagit, si ça peut répondre à nos besoins, explique François Métaux-Bordua, directeur de ce département. Un protocole d'essai sera mis au point par les ingénieurs de la ville avant d'utiliser ce produit sur le terrain. On doit regarder quels impacts ça peut avoir sur nos infrastructures. On ne veut pas se créer de problème, imagine-t-il. Le produit en question, appelé Stop Gliss Bio, provient de la compagnie Technologie EMC3 de Joliette. Elle s'est inspirée de villes suisses qui utilisent depuis quelques années des copeaux de bois imbibés de chlorure de magnésium sur leurs trottoirs et allées piétonnières. Le propriétaire de Technologie EMC3, André Prévost, a invité la ville de Green Bay cet automne à essayer son produit. C'est très efficace, ça ne nuit pas à l'environnement et on ne manque pas de copeaux de bois au Québec, indique-t-il en entrevue. Les copeaux ont une longueur d'entre 5 et 20 mm. Le sodium de magnésium dont ils sont recouverts leur permet de s'incruster dans la neige tapie ou la glace, et ce jusqu'à une température de moins 30 degrés Celsius, assure M. Prévost. Le but recherché est d'éviter que la surface soit glissante, dit-il. On ne le met pas pour faire fondre la neige ou la glace, on l'utilise pour donner une adhérence à la surface. La propriété chimique du chlorure de magnésium est parfaite pour une utilisation par les municipalités, soutient M. Prévost. Le produit a un pH neutre, peu propice à provoquer de la corrosion ou à polluer les cours d'eau, précise-t-il. Et voilà qui met un terme à cette édition du 5 janvier 2018 du quotidien Des Quotidiens. Je remercie Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi alors que Hélène Denis reprendra son micro. Merci d'avoir été là.